Nous vous présentons, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Junier Jean-Pierre, Premier souvenir. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Vers les 4 ou 5 ans, je ne sais plus, ma mère me mena à l'école maternelle privée de Saint-Fond. Là, sans mes parents, dans un endroit inconnu, j'y vivais des choses sans les comprendre. Je me souviens, c'est qu'on nous faisait jouer dans un pré en pente. Il y avait deux classes. Une des petits, où il n'y avait pas de bureau, et celle des grands. Je me trompais souvent de classe. Ma mère m'avait acheté un cahier, mon premier cahier. Il y avait dessus Vincent Jetorux se rendant les armes. Ce cahier, je l'ai gardé peut-être 10 ans. Une ardoise et des crayons. Là, dans cette petite école, j'ai fait la connaissance de mon premier ami. Son nom, j'ai dû jamais le savoir. J'étais attiré par son odeur agréable, ses beaux cheveux noirs, sa peau très blanche. C'était mon premier ami, mais c'était aussi mon premier amour, car j'avais un désir irrésistible de le toucher. Je ne le faisais pas, et n'osais pas beaucoup lui parler. Nous courions ensemble, et c'était tout. Mais je n'allais pas souvent à l'école, car ma mère avait peur que je porte mon affection ailleurs que dans sa maison. Elle était très jalouse. Alors elle me disait plus de choses contre l'école que pour m'y faire aimer. Mais comme l'école était obligatoire, il fallait que j'y aille, et elle le voulait. Moi, comme je sentais que ça faisait de la peine, je faisais celui qui ne l'aimait pas. Et de fil en aiguille, je devins un très mauvais élève jusqu'à ma sortie de l'école à 14 ans. Pourtant, j'aimais bien l'école. Ma mère un jour tomba malade. Elle était alitée, ce qui n'était pas une nouveauté, car elle était souvent fatiguée. Il y avait eu la guerre, les restrictions. Elle était toute adolescente et le manque de nourriture attaqua sa santé. Surtout qu'à cette époque, il n'y avait pas de machine à laver. La cuisinière et le chauffage étaient au charbon, pas d'eau chaude au robinet. Il fallait se lever tôt le matin pour mettre la cuisinière en route, pour chauffer l'eau, pour se laver et préparer le petit déjeuner. La lessive était pénible. Faire bouillir le linge dans la lessiveuse, le brosser avec une planche et une brosse à quatre pattes sur la lessiveuse pendant des heures, faire sécher le linge à la maison et le repasser. Le sol se lavait à la serpillière et à la brosse avec de l'eau et du savon. Les repas aussi étaient longs à préparer à la maison, sans appareil ni cocotte minute, et tout cuit au charbon, ce qui faisait, à cause du linge, des repas, hiver comme été. Et comme la cuisinière marchait et chauffait, ceci rendait respirable la cuisine l'été. La télévision n'était pas encore inventée pour tous. Mais les familles pauvres n'auraient pas eu le temps de la regarder. Donc, ma mère était malade et mon père fit venir un médecin. Je crois me souvenir qu'il était petit, gros et me faisait un peu peur. Une fois qu'il a examiné ma mère, il me demanda d'aller lui chercher une miche de pain dans sa voiture. Comme d'habitude, je ne comprenais pas ce qu'il me disait et je paniquais. Mon père dit au médecin, « Il est trop petit, je vais y aller moi-même. » Une fois que mon père ait ramené la miche de pain, le médecin en prit un morceau de mie qu'il roula en boule et l'avala. Ceci me surprit et j'avais peur que le médecin s'étouffât. L'on me dit, une fois qu'il était parti, que le docteur m'avait examiné lorsque j'étais bébé et qu'il avait dit que j'étais beau, propre et que j'avais de jolies fesses qui feraient courir les filles en félicitant ma mère. Je ne comprenais rien à cela et qu'en fait, courir les filles, il s'était trompé. Les filles n'avaient jamais été attirées par moi. Le médecin, au lieu de regarder mes fesses, il aurait mieux fait de voir par devant et de ranger cette petite malformation qui nuit au rapport avec les filles. Ma mère était très pieuse. Elle aurait aimé se faire religieuse, me mener à la messe tous les dimanches et jours de fête. Je ne me souviens plus si mon père nous y accompagnait. À cette époque, là, ce n'était pas comme maintenant. Les femmes devaient avoir quelque chose sur la tête, chapeau ou foulard, gros livre de messe et chapelet. La messe était en latin. Le prêtre ne nous faisait pas face. Il y avait des enfants de corps et tout. Je crois que le 15 août, on nous distribuait des médailles. Un jour, en allant à la messe, je devançais ma mère qui allait avec une femme. Tout à coup, à un tournant, je tombais nez à nez avec un vieil homme avec une barbe grise et moustache. Mon corps se mit à battre. Je me mis à crier. Je ne savais pourquoi, j'avais peur des hommes à barbe. Ma mère et sa compagne accoururent vers moi. Ils ont dû me mener dans un café pour me faire donner un verre d'eau. y avait une chose dont j'avais horreur, c'est que ma mère me lava les cheveux. J'avais une folle, de l'eau et du savon qui brûle les yeux. J'avais la gorge serrée en regardant ma mère préparer l'évier pour cet effet. J'en avais les larmes aux yeux. Puis, elle me prenait et me penchait la tête dans l'eau qui était, bien entendu, trop chaude. Alors là, j'étouffais, je suffoquais, j'étais tendu. J'avais une peur terrible de manquer de respiration, car le cours renversé m'empêchait de respirer. Et c'est eau, ce savon, qui allait sur mes yeux. Lorsque c'était fini, il fallait... Et... encore subir les frictions avec la serviette. Ma mère frictionnait tellement vite et fort que ma peau en devenait toute rouge. Ma putain d'enfance, et même maintenant, je ne supporte pas les vogues, leur bruit, musique, ambiance, me donne le cafard, et j'en suis obligé de m'en éloigner. Pourquoi? Je ne sais pas. Il est vrai que je n'aime pas les ambiances populaires. Mais bébé, qu'est-ce que je savais ce que c'était que le populaire? Pourtant, lorsque mes parents me promenaient dans ma poussette et pour me faire plaisir menaient voir une vogue, je pleurais jusqu'à ce que l'on m'en éloigne. Il est vrai que j'aimais déjà la solitude et le calme. Petit, j'avais déjà le sens de l'épargne et de l'économie. Lorsque l'on m'offrait des bonbons ou autres gâteries, sans que personne ne m'apprît, je ne mangeais pas tout de suite la gâterie, je la conservais et la mettais dans un rayon du buffet. Elle saurait manger que plus tard, lorsque j'en aurais d'autres. Pourtant, j'étais gourmand, ce qui faisait toujours rire mes parents et ses invités. Mon père disait « Vous allez voir ce qu'il va faire. Il est très économe et sérieux. » Mon père rêvait que plus tard, je serais professeur et ma mère prêtre. Les pauvres, je les ai vite déçus, on m'a très vite traité de tête brûlée. J'étais très gourmand, je viens de le dire. Mais je mangeais de tout sans rechigner. Sauf d'une chose, la viande. Là, je la mastiquais, la mettais en bouillie. Elle la ressortait de ma bouche pour la mettre dans mon mouchoir et la jeter en cachette. À la grande tristesse de mes parents, ma mère pensait que les enfants devaient avoir besoin de tout pour se développer, et surtout de viande. Malheureusement, comme mes parents étaient pauvres, ils n'avaient et n'achetaient de la viande que pour moi. Une fois de temps en temps, nous allions au cinéma de Saint-Fond. C'était un cinéma unique de quartier qui changeait une fois par semaine de programme. Il y avait foule. On ne diffusait pas comme maintenant que le grand film, mais il y avait les documentaires, les actualités.
de robe de bure pour le roi Baudouin. Au château ardennais de Siernion, le souverain a présenté à la presse sa fiancée, Doña Fabiola de Mora y Aragon, ici entre sa mère et la princesse de Réti. L'événement, parfaitement inattendu, a donné un sérieux motif de réjouissance au cœur des Belges, qui en manquaient plutôt depuis quelque temps. Le cinéma, lui, a consacré comme une valeur sûre la jeune vedette Perrette Pradier, 18e lauréate du prix Suzanne Bianchetti que Pierre Laroche lui a remis au nom des auteurs de films. La pauvre était si émue qu'il a fallu sécher ses larmes.
Le dessin animé, qui était souvent le seul film en couleur. Et la publicité, plutôt la réclame.
Un robinet et l'eau chaude coule. On tourne un bouton et la cuisinière fonctionne. Voulez-vous tout cela? C'est à vous. Pour 2 à 3 000 francs par mois, vous pouvez avoir un de ces appareils. Oui, vous me direz, tout ça c'est bien joli, mais il faut le payer quand même. D'accord. Mais écoutez-moi. Vous pouvez payer tout cela sans vous en apercevoir par la sobriété. On ne peut pas dire se priver de tout. Il ne s'agit pas, par exemple, de ne pas boire de vin, mais d'en boire modérément. Vous vous porterez mieux car tous les abus sont dangereux. Et puis, vous élèverez votre niveau de vie. Vous aurez plus de confort avec des appareils merveilleux, n'est-ce pas, madame, que vous aurez gagné un peu chaque jour. La sobriété, c'est une vie améliorée.
Ça, c'est formidable.
Ça, c'est merveilleux. Ça,
c'est sur la table, là devant vos yeux. Nom d'un petit bonhomme.
Ça, c'est mieux que bon. Ça, c'est un coup de fameux.
C'est un vrai jus maison.
Mais c'est autre chose aussi. De plus doux, de plus sain aussi. Qui rafraîchit tout bon l'ami.
L'entracte, l'on chantait. Bonbon, caramel, esquimaux, chocolat. Plus tard, lorsque je serai plus grand et que j'irai au cinéma avec des copains, j'ajouterai à la chanson « Sucez les nénés de Lolo, Brigida ». Après l'entracte, il y avait le grand film. Je dois avouer, c'est que je regardais à peine l'écran, tellement j'avais peur de ces grandes images et de ces bruits. Je me tournais et me retournais dans mon fauteuil, avec cette hâte que tout cela finisse. Je crois même que mes parents ont dû partir avant la fin, tant j'avais été insupportable. Un jour, je fus terrorisé. C'était un film avec Fernandel, dont je me souviens plus du nom. Il était dans une voiture. Le chauffeur se transforma en indien, ce qui me fit très peur et fit très peur à Fernandel aussi. L'indien se transforma en singe, puis la voiture tomba à l'eau. Quelle horreur! Très jeune, j'avais fait la connaissance avec ce que l'on appelle le plaisir solitaire. Avec moi, cela allait bien. Je desserrais et serrais mon sexe entre mes jambes. Mon zizi grossissait et m'apportait quelque chose d'agréable. Malheureusement, lorsque mes parents me voyaient faire cela, ils me grondaient et me disaient que c'était caca. Mais moi, je ne pouvais m'en empêcher. J'étais chaste dans mes pensées. Aucune idée ou rêve venait accompagner ce plaisir. D'ailleurs, c'était le seul plaisir que mon corps pouvait m'apporter, car je m'étais aperçu que ce corps ne pouvait m'apporter que des choses désagréables. Je le sentais gauche et sans grâce. Un après-midi, ma mère, mon père et moi, nous quittâmes la maison. Ma mère m'avait pris la poussette et y avait mis dessus des paquets et nous sommes partis en direction de Lyon en suivant la route de Vienne à pied. Je ne savais pas pourquoi, mais on m'avait simplement dit que nous allions changer de maison. Cela faisait des années que mes parents cherchaient un appartement, mais c'était dur, la reconstruction se faisait lentement. Un jour, mon père voit en passant au 49 de Vienne un immeuble qui se construit. Il se renseigne, on lui dit que c'est un immeuble de 4 étages et qu'ils sont déjà achetés. Mon père, comme l'immeuble n'était pas fini, demanda à ce que l'on ne pouvait pas faire un 5e étage pour lui. Ça lui a été accordé, et comme c'était un étage supplémentaire, ma mère a eu la permission d'en construire les plans. L'architecte le trouva si bien, il s'en servit plus tard. Donc, nous sommes arrivés au 49 route de Vienne. Le déménageur ne devait déménager que 3 jours plus tard, mais ma mère était heureuse. Elle voulait partir de suite. Nous sommes arrivés, montés les 5 étages à pied. Pas d'ascenseur, mais l'allée était claire, beige et vert pâle. Surpris par la clarté, la grandeur, le nombre de pièces et le sol en parquet. Nous sommes mis dans la cuisine et nous avons mangé des abricots et du pain. Mon père est allé travailler car il travaillait le samedi soir. Nous avons couché, ma mère et moi, dans la grande pièce, sur un matelas et une couverture ou un drap. Nous n'avons pas pu dormir, ma mère et moi. La lumière de la ville, le bruit et cette clarté des murs en tapisserie unie et claire. Ma mère était tellement heureuse que le lendemain, elle prit une crise de foie. Lorsque mon père était absent, ma mère et moi, nous mettions sous nos pantoufles de la paraffine et faisions de grandes glissades dans le vaste couloir tout ensoleillé. Nous étions très heureux, ma mère et moi, dans ce vaste appartement lumineux et presque vide. Nous ne sortions presque jamais, juste pour aller faire des courses au magasin du bas, qui était un casino. Il y avait aussi 2 cinémas, le Splendide et le Kursaal. Lorsque nous y allions le samedi soir, comme tous les gens du quartier, je n'avais plus peur. Tout d'un coup, ce qui me terrorisait devenait pour moi quelque chose de merveilleux. J'avais compris, c'est que le cinéma, c'était un endroit où l'on faisait un rêve collectif. Alors, j'ai rêvé moi. Mon père s'amusait à faire des postes à galène. C'était des postes de radio qui marchaient sans courant. Le dimanche, il faisait les marchés aux puces pour acheter les accessoires qu'il fallait. Et à la maison, il montait ses pièces sur une planche. poste était branché sur le robinet de la cuisine et l'on pouvait entendre la radio avec un écouteur. Seule Radio Lyon pouvait être écoutée. Bien sûr, le poste à Galeigne était une chose très ancienne et démodée. Nous avions aussi un vieux poste de radio à lampe. Il était grand, gros, en bois, comme un meuble. Ça grésillait, bien entendu, beaucoup. Mais l'on écoutait religieusement la radio.
À la découverte de ces ondes, à l'élaboration des lois qui régissent leur propagation, à leur utilisation pratique, tout l'Occident civilisé a travaillé. Le grand savant français Ampère est à la...
Et l'on écoutait religieusement la radio, assis devant le poste comme pour la télé. Les émissions étaient variées. Il y avait des émissions de variété en public, des pièces de théâtre, des feuilletons, des concerts, le tout, presque tout en direct.
Et indique un expédient pour les produits. En 1891, l'invention de Branly détermine presque toutes les bases de la TSF pratique. L'Italien Marconi, réunissant ses éléments épars, réalise le premier un dispositif réel et pratique de télégraphie sans fil. En 1899, il transmet sans fil de Douvres à Vimereux le message suivant. Monsieur Marconi envoie à Monsieur Branly ses respectueux compliments par le télégraphe sans fil à travers la Manche. Ce beau résultat est dû en partie aux remarquables travaux de Monsieur Branly.
Ma mère appréciait beaucoup la radio, car mon père l'avait interdit à la maison. Une pièce radiophonique avait terrorisé mes parents. C'était une adaptation du Château des Carpates d'après Jules Verne.
Et maintenant, une page de publicité.
Mes 6 ans approchaient et ma mère recherchait pour moi une école. Malheureusement, ce n'était pas facile, car, comme je suis né le 18 février, pour la rentrée d'octobre, c'était trop jeune, et de l'année prochaine, trop vieux. J'ai bien dit octobre. J'avais marqué septembre, mais non, c'est bien octobre, car la rentrée se faisait bien en octobre. Nous avions vraiment 3 mois de vacances, et le jour férié était le jeudi. Le samedi, toute la journée était école, sauf qu'il n'y avait pas d'études. Enfin, ma mère trouva une école qui voulut bien de moi. Hélas pour nous deux. L'école Saint-Michel, libre, catholique, quartier Jean Massé, près de l'avenue Berthelot. Il y avait l'école des filles et celle des garçons, entre les deux la chapelle. J'y allais assez intimidé. Ma mère m'avait dit que c'était une bonne école. Je ne sais pourquoi, au lieu de me mettre dans la classe des petits, l'on me mit de suite dans celle des grands, lesquels étaient tenus par des religieux, mais les classes étaient faites par des laïcs. La classe était vaste, sombre, avec une grande estrade qui en avait une autre dessus. Il y avait un bureau et le tableau noir. Elle était dirigée par une jeune institutrice qui était fiancée à un jeune soldat parti en Algérie. Je ne me souviens plus du tout du physique de cette personne. La classe avait des divisions qui étaient faites d'années différentes. Et moi, j'étais dans la petite division. Nous étions entre 3 ou 4 petits au milieu d'une classe de grands. Nos bureaux étaient de vieux bureaux en bois sale qui s'ouvraient par-dessus. Je m'assis dans un bureau que l'on m'indiqua. Ma mère m'avait acheté un cartable marron en carton bouilli qui se déchirait facilement. Un plumier avec tout ce qu'il fallait. Une boîte, un compas, des règles, une ardoise et des cahiers. Je devais avoir aussi une blouse. Une fois assis, trois élèves plus grands que moi vinrent vers moi. Ils voulurent que je leur montre ce que j'avais. Je le fis avec bonne grâce. Ils se mirent à rire et en riant, ils cassèrent mes affaires, puis partirent. J'étais suffoqué et ne savais que faire, mais je n'ai pas eu le temps de réfléchir, car la maîtresse commença à poser des questions. Première question avait été quelque chose en ce goût. 1 - 1 = Je lui dis rien. Elle me dit non, 0. Je restais dépité. Ce qui s'était passé le premier jour me referma sur moi-même et me rendit plus timide. Mes affaires cassées, le rire de mes camarades, la question posée, j'avais l'impression d'être dans un monde qui n'était pas le mien. Pourtant, j'étais parti avec de bonnes intentions. Je me mis à avoir peur des autres et honte de ce que j'étais.
Je suis Richard Cœur de Lion, l'orgueil de la chrétienté. Je vais te bouter hors de Jérusalem.
Très vite, dans les récréations, ma timidité amusait les autres et l'on me mit à part. On cherchait même à me faire de mauvaises farces, telles me faire manger un bonbon que j'avais vu qu'ils avaient trempé dans l'urine. On me prenait ma casquette que ma mère m'avait tricotée, la jetait en l'air, piétinait. Elle avait une visière renforcée en métal noir et se tordait. L'on me tirait par les vêtements, déchirait ou arrachait les boutons, me faisait tomber. La cour était sale et pas goudronnée. J'arrivais à la maison dans un état pas possible. La mère me menait tout de suite dans la salle de bain. Elle me faisait des réprimandes, mais je n'osais pas lui dire que ce n'était pas en jouant, mais que c'était mes camarades qui me jetaient à terre. J'avais honte de cela, et pourtant ce n'était pas de ma faute. Je m'enfermais sur moi-même et apprenais à cacher à mes parents. J'apprenais à cacher ma vie à mes parents. Alors, je m'isolais dans les récréations, restais près du surveillant qui me disait d'aller jouer. La vie scolaire était devenue un enfer pour moi. Pourquoi me faisait-on des misères ? C'est à cette époque que je devins somnambule. Le soir, je me couchais trop tôt, de peur de ne pouvoir me lever à l'heure le matin. Dans la nuit, je faisais des rêves qui me terrifiaient. Par exemple, que j'étais à la fenêtre. Les vitres devenaient brûlantes. Il y avait le feu. Alors je paniquais. sautait à la fenêtre et faisait des efforts surhumains pour ne pas descendre et m'écraser. J'essayais de voler. Je me réveillais en sueur dans mon lit, avec mes parents autour de moi. Impossible de leur dire ce que j'avais rêvé. Eux me disaient que j'avais couru en rêvant, en poussant de grands cris. Je me souvenais de rien. Je faisais toujours pied au lit, mais l'envie ne me réveillait plus. Ma mère était obligée de me réveiller bien avant l'heure pour me laver. Me changer, me parfumer, elle me faisait des réprimandes, mais j'étais comme dans un rêve, effarouché, sans pouvoir réagir. Ce qui faisait que j'avais droit à une douche le matin pour le pipi, et le soir, à cause de mes camarades qui me jetaient à terre. L'école me terrifiait, la maison aussi, la peur de la nuit, de faire des cauchemars, le pipi au lit, les mauvaises notes, les réprimandes. Au milieu de tout cela, je ne savais plus où j'en étais. Je devenais idiot, je ne devais plus parler, jouer, apprendre. Parce qu'à l'école, j'avais l'impression qu'on me prenait pour un fou, et chaque fois que l'on m'interrogeait, je me sentais jugé. Mes notes étaient déplorables. De temps en temps, je me souvenais du plaisir que j'avais eu avec mon zizi. Et comme je l'avais eu, alors, pour trouver un peu de réconfort, je recommençais mes mouvements avec mes jambes dans mon lit ou assis à table. Étant petit et avant d'aller à l'école Saint-Michel, ma mère m'avait parlé de mon petit Jésus et de mon ange gardien, etc. J'y avais cru sans peine. Mais dès que je suis entré à Saint-Michel, avec l'ambiance que j'avais, tout se mélangeait, religion et mes brimandes. Puisque les brimades se faisaient dans une maison de Dieu, puisqu'à chaque nouvelle étude, nous avions la prière...
Tout le monde a compris ?
Oui, monsieur !
Le catéchisme, chaque matin.
Aujourd'hui, Saint-Siméon Stylite. Saint-Siméon Stylite avait 13 ans et gardait les moutons de son père quand il entendit ce verset de l'Évangile. Malheur à vous qui riez à présent, car le jour viendra où vous pleurerez. Il quitta ses parents, devint ermite et vécut 30 années sur une colonne. Tenait debout, sans abri, absorbé dans une prière quasi continuelle.
Et la messe tous les vendredis.
En vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas de vie en vous. Qui mange ma chair.
Aidez-moi.
Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson.
On a rien à bouffer, on crève de froid. Et il faut être à jeun pour communier. Quelle boîte.
Tu veux communier?
Je suis pas riche comme toi.
Et vous, la messe tous les vendredis. Et il y avait aussi cette chose horrible, la confession. Ce qui fait que cette atmosphère religieuse et de réprimande me rendait malheureux et me devenait difficile la croyance religieuse et me fit perdre toute ma pureté. Thank you. En plus des réprimandes que l'on faisait subir, il y avait trouvé autre chose. Les élèves tout entiers se réunissaient dans un coin du préau qui était désinfecté pour ne pas être vu. Et là, ils m'amenaient, moi et un autre camarade de mon âge. Ils nous mettaient au milieu du groupe. Nous avions très peur, entourés de tous ces grands. Ils nous demandaient de sortir notre zizi. Moi, je paniquais et ne voulais pas le faire. Personne ne m'avait dit que ça ne se faisait pas de montrer cette chose, mais instinctivement, je sentais que c'était interdit. Mon camarade de port le sortait de sa braguette, alors les autres venaient le lui tirer. Ensuite, il venait vers moi et me le demandait. J'avais si peur que j'obéissais. Une fois sorti, il me tirait dessus. C'était très désagréable. Je ne sentais rien. Les autres riaient comme des imbéciles. Une fois qu'ils en avaient assez, ils se dispersaient. Mais quelquefois, une religieuse du haut des escaliers ouvrait la fenêtre et tapait des mains pour les faire disperser. Il était interdit de se grouper en dehors de la cour. Il n'y avait pas que dans la cour où on m'ennuyait, dans la classe aussi. Avant l'heure, lorsque la maîtresse était absente, on venait à mon banc et me demandait de me montrer mon zizi. On me proposait même des cadeaux. Je ne comprenais pas le plaisir qu'il pouvait avoir à me proposer cela. Je savais que c'était pas bien, mais je ne faisais aucun parallèle au plaisir que j'avais avec mon zizi et leur demande. Les garçons avaient d'autres jeux, par exemple celui d'aller jeter un papier dans la corbeille à papier qui est juste en dessous de la maîtresse, pouvoir voir sous ses jupes. Ceci me faisait beaucoup rire, mais je ne cherchais pas à savoir ce qu'il voyait. Je fis ma première communion. Le prêtre avait dit à ma mère, « Pour lui, c'est spécial. On lui permet de la faire, malgré son retard scolaire. » Je me souvins qu'en sortant d'une des réunions où l'on nous avait appris à avaler une hostie, un de mes camarades s'est mis à la cracher sur ma veste. Donc, j'avais fait ma première communion. Il fallait que je me confessasse toutes les semaines. Nous y allions par classe. Comprenant jamais ce que me disait le confesseur, alors, pour ne pas avoir l'air idiot, je disais que j'avais menti ou été gourmand. Il y avait en face de l'école une petite roue où il y avait un marchand de bonbons, billes et bandes dessinées. Ce genre de marchand que l'on trouve à proximité de chaque école. Tous allaient acheter des marchandises. Moi non, je n'avais pas d'argent. J'aurais bien pu en demander à mes parents pour acheter quelques petites choses. Mais je ne sais pourquoi et comment je le fis. Je volais quelques pièces pour acheter des petites friandises. Dans le magasin, je me trouvais indécis, ne sachant ni le prix des malabars, ni bien compter. Je ne savais pas si j'en avais assez. Je dis ce que je voulais et donnai toutes les pièces au marchand qui me servit. Ce fut ma première faute, mon premier vrai péché. Là, je sus ce que je devais dire à mon confesseur. J'étais 30 ans en retard pour mon âge. Je n'apprenais rien, ne comprenais rien. À 8 ans, je ne savais toujours pas lire. Mes parents devaient être très déçus par moi. Je n'allais pas à l'école seul. Je faisais le trajet avec deux camarades, beaucoup plus grands que moi, et qui étaient dans la classe des grands. Sur le chemin de l'école, ils se parlaient entre eux, mais ne me parlaient pas. Un jour, ils apprirent par un de ma classe que je ne savais toujours pas lire. Alors ce fut pour moi la torture. J'avais honte de ne savoir pas lire. Mais je n'y pouvais rien. J'étais incapable de faire un effort pour apprendre. Les deux jeunes, pour savoir si c'était vrai, me posaient des questions et me demandaient de lire les plaques des boîtes aux lettres. Mais moi, je rougissais et ne disais rien. Le trajet pour aller à l'école devenait insupportable. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Premier souvenir. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.